Radio Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. L'actualité reste dominée par l'arrivée ce vendredi de la première ministre à Goma, au Nord Kivu. Judith Suminwa est accompagnée d'une dizaine de députés et quelques membres du gouvernement. La population de Goma n'adresse qu'un seul message à Judith Suminwa. Tout faire pour le rétablissement de la paix dans cette région. L'Assemblée nationale a mis en place une commission pour accompagner la ville dans la lutte contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages à Kinshasa. Une délégation des députés nationaux a rencontré hier jeudi les gouverneurs de Kinshasa à ce sujet. Notre invité dans cette édition, c'est Jean-Claude Mambo-Kawaya. Il est le président de la coordination territoriale de la société civile en territoire des Nyiragongo. Il nous parle de l'insécurité grandissante dans son entité. Bonjour à toutes et à tous. La première ministre est arrivée à Goma ce vendredi en début d'après-midi. Accompagnée d'une dizaine de députés et quelques membres du gouvernement, Judith Suminwa a été accueillie par les gouverneurs des provinces, plusieurs personnalités politiques, mais aussi une grande foule des militants des partis politiques. Une frange de la population l'a attendue avec plusieurs calicots portant des messages pour demander de renforcer l'état de siège et doter les gouverneurs des moyens nécessaires pour combattre les rebelles du M23. Non au dialogue avec les terroristes, oui aux opérations militaires et au retour de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Pouvions-nous lire sur certains calicots? D'autres reprenaient de messages demandant que les commandements des opérations militaires soient remis au gouverneur Chirimwami. Rappelons que les programmes de la première ministre prévoient une réunion d'évaluation de l'état de siège ce même vendredi. Nord Kivu toujours, le gouvernement provincial demande à la MONUSCO de sécuriser les commerçants sur la route Goma-Minova, cela pour faciliter l'approvisionnement en vivres frais à la population de Goma. C'est le gouverneur militaire des provinces qui donne l'information. Le général-major Peter Chirimwami répondait directement à une femme vendeuse des vivres au marché Mama Olive Lembe de Goma qui a expressément demandé à l'autorité provinciale de réouvrir cette route. Une demande que tous les vendeurs des vivres frais exprime surtout depuis le naufrage du bateau MV Merdi début octobre dernier sur les lacs Kivu. Naufrage qui a coûté la vie à plusieurs personnes et causé de lourdes pertes économiques. Rosalie Zawadi.
Alors que les gouverneurs supervisent les travaux d'assainissement au niveau de ces marchés, cette vendeuse des vivres saisit l'occasion de lui demander de réouvrir la route Goma-Minova.
Passer par les lacs pour acheminer nos marchandises ici, c'est très difficile. Aide-nous à réouvrir la route de Minova. Parfois, nous sommes obligés de jeter nos marchandises sur les lacs. Nous souffrons beaucoup, papa.
En répondant à cette femme courageuse, l'autorité provinciale répond à toute la population qui attend impatiemment la réouverture de cette route. Le général-major Peter Chirimwami.
Ce n'est pas nous qui avons fermé la route de Minova. J'ai déjà réhabilité le pont de Saki. Si la route est fermée, c'est par l'ennemi. Mais nous avons déjà demandé à la MONUSCO, comme nous sommes dans une période de cessez-le-feu, que la MONUSCO puisse vous sécuriser pour que vous puissiez passer par cette route. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Rappelons que cette route est fermée depuis plus d'une année maintenant à cause de la guerre du M23. L'approvisionnement par les lacs étant limité, surtout depuis les récents naufrages, ce sont les produits vivriers de l'étranger qui inondent les divers marchés de la ville. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Dans la province du Lualaba, la commune de Fungurume est toujours en proie à l'insécurité malgré les efforts des autorités locales. Des hommes en armes non autrement identifiés volent, violent et tuent en toute impunité. Sans défense, la population plaide pour que les mesures de sécurité soient renforcées. Pour sa part, la société civile locale recommande au ministre provincial de l'Intérieur d'organiser une table ronde avec les forces vives pour débattre de la question. En outre, elle demande que la police locale soit appuyé en moyens logistiques pour bien lutter contre cette insécurité. Jean Gandou.
Le dernier cas en date remonte à la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Mpala Golf. Des bandits armés, après avoir visité de nombreuses maisons, ont blessé par balle un jeune garçon de 24 ans qui, pour le moment, est admis dans un centre hospitalier de la place. Témoignage de son père.
Nous avons été visités par des bandits armés. Alors, ils ont commencé à démolir la maison du voisin.
Mon fils, il a cru que c'était chez nous. Quand il est sorti,
ils ont tiré sur lui une balle dans la cuisse. Hier, vers 16h, que les docteurs ont opéré parce que la balle logeait encore dans sa cuisse. Nous demandons à nos autorités qu'ils puissent nous protéger vraiment. Nous sommes dans l'insécurité totale.
Ce témoignage est loin d'être le premier car dans un passé récent, d'autres cas similaires se sont produits dans la même commune. Comme nous l'indique Pascal Kavoul, la société civile Force Vive, coordination communale de Fungurume.
Le 29 août 2024, un mari et sa femme ont été tués par des bandits non autrement identifiés. Le 13 septembre 2024, un autre couple encore a été tué au mois d'octobre 2024 au quartier Loukeka. Plusieurs maisons ont été cambriolées. Au mois de novembre, quartier d'Ipeta, 8 maisons ont été cambriolées.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, le groupe armé Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI, n'est pas concerné par les enquêtes sur les crimes contre l'humanité qui se déroulent depuis lundi dans les groupements de Kabarole en territoire du Rumu. Mis au point ce vendredi de l'auditeur militaire garnison de l'Ituri, le major magistrat Guillaume Gembo précise que sa juridiction a été saisie par les autorités coutumières locales de la présence des ossements humains dans une fosse dans cette localité et que les enquêtes sont en cours pour déterminer les auteurs de ces crimes. Le major Guillaume Gembo est au micro d'Isaac Remoyopé.
Nous avons été saisis par une plainte du chef de groupement des Kabarole faisant état de la présence des ossements humains dans un puits. Nous avons aussitôt entamé une enquête et actuellement nous sommes encore en pleine enquête consistant à identifier les présumées victimes. Et nous pensons que tel que ça évolue actuellement, nous sommes en face d'un crime contre l'humanité. Nous sommes encore en pleine enquête, nous ne pouvons pas encore déterminer les auteurs de cet acte-là. Le groupe armé MAPI n'est pas concerné dans le cadre des enquêtes que nous sommes en train de mener, d'autant plus que c'est la même communauté. Nous ne voyons pas comment une seule communauté peut s'attaquer encore avec contre les membres de sa propre communauté. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore identifié les vrais auteurs. Mais ce n'est qu'après, à l'issue des enquêtes, que nous serons en mesure de déterminer qui sont les vrais auteurs de ces actes-là.
Notez que ces enquêtes se déroulent avec l'appui de la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice. À Beni, au Nord Kivu, l'atelier de renforcement de connaissances et compétences en matière de santé en milieu carcéral s'est clôturé ce jeudi. Organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, cet atelier a réuni environ 60 participants, parmi lesquels des responsables des maisons carcérales, des structures sanitaires carcérales et de l'administration pénitentiaire de Beni, Butembo et Lubero. L'événement a mis l'accent sur l'amélioration des conditions sanitaires et judiciaires en milieu carcéral. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Durant 3 jours, les participants ont examiné la situation générale des prisons à Beni, Butembo et Lubero. Ils ont également été formés sur l'importance de garantir une bonne santé à détention, de promouvoir les pratiques sanitaires respectueuses des droits humains et de renforcer l'accès à la justice pour les détenus. Parmi les problèmes abordés figuraient l'accès aux soins de santé, la malnutrition, les cas de décès et la surpopulation carcérale. Le chef de bureau de la division provinciale de santé, le docteur Josias Katungu Enyamwaka, a salué cette initiative.
Si cet atelier au moins revenait chaque année, ça nous permettrait de nous remettre à cause. Après cet atelier, nous sentons, nous savons où est-ce que nous allons marteler. Et la justice connaît où est-ce qu'elle va marteler.
Les organisateurs espèrent une nette amélioration des conditions carcérales. Le docteur Elias Saad, chargé des programmes en détention pour le CICR en RDC, souligne l'importance de cette démarche.
Le droit à la santé est un droit fondamental. Le résultat final va avoir lieu lorsqu'on trouve que les personnes privées de liberté ont accès à une bonne alimentation, à un référencement à l'hôpital quand il y a un besoin selon les critères médicaux.
Signalons que l'atelier s'est terminé par une visite des maisons carcérales locales permettant aux participants d'évaluer leur état général. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Je le disais au sommaire, l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages à Kinshasa au cœur d'une rencontre hier entre le gouverneur Daniel Bumba ainsi que les députés nationaux Matata Ponyo et Adrien Bokele. L'Assemblée nationale a institué une commission pour accompagner la ville dans la lutte contre ces 3 problèmes cruciaux, notamment en s'épanchant sur leur cause afin de proposer des mesures à prendre pour y mettre fin. Pour Matata Ponyo, ces mesures seront à la fois conjoncturelles et structurelle. Suivez cet extrait de ses propos sélectionnés par Babel Pongo Massimango.
Il y a une commission qui a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale. Cette commission prend en charge trois questions: la salubrité de la ville, la question des constructions anarchiques et la question des embouteillages. Comme vous le savez, il y a un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. L'Assemblée nationale a approuvé cette proposition qui vise à analyser le facteur causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures à pouvoir prendre. En ce qui concerne les constructions anarchiques, il s'est avéré que l'une des causes des inondations dans la ville, même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives. Il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale. Enfin, c'est les problèmes d'embouteillage. Il est pratiquement difficile de se mouvoir, de programmer un agenda. On ne peut pas continuer dans cette situation. Nous sommes en train d'échanger avec le gouvernement, mais il fallait aussi échanger avec le numéro 1 de la ville.
Dans la province de la Tchopo, la direction provinciale de l'Office des routes est dépourvue des moyens nécessaires pour exécuter les travaux de réhabilitation, de construction et d'entretien routier. Son matériel acquis depuis 2010 se trouve en état de vétusté très avancé. Le directeur provincial de l'Office des routes l'a révélé hier au cours d'une interview avec la presse locale. Néanmoins, Benjamin Jima Biangandu espère recevoir d'ici 2025 des engins promis par le gouvernement central pour remplir convenablement sa mission. Les points avec Jacques Mkonkole.
Ce matériel totalement amorti ne permet pas à l'Office des routes d'ouvrir des chantiers sur le terrain, affirme le directeur provincial de cette entreprise. Pour Benjamin Jim Biangandu, il est pratiquement difficile de pouvoir travailler.
Si nous n'avons pas des engins, vous allez comprendre que c'est vraiment difficile pour nous de répondre à l'attente de la population. Donc on est incapable de faire des travaux avec les peu de moyens que nous pouvons avoir du gouverneur ou des autres partenaires.
Outre le manque d'engins, l'Office des routes fait également face à des difficultés financières. La dernière fois que le FONER l'a doté des moyens financiers remonte à l'an 2021. Qu'à cela ne tienne, l'on constate tout de même des travaux d'assainissement de certaines routes dans la ville. Selon le directeur de l'Office des routes, ceux-ci sont effectués par des entreprises privées sur l'initiative du gouverneur de province.
Nous cherchons des partenaires qui ont des engins, qui ont un peu de fonds, qui peuvent s'autofinancer et démarrer les travaux. Donc c'est ce qui se passe actuellement quand vous voyez qu'il y a des routes qu'on a données à Yetou, par exemple, à Kass et puis à Kin Construction.
En attendant les jours meilleurs, le gouverneur des provinces enjoint l'Office des routes à la surveillance des taux des travaux en cours. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé, une structure allemande propose son appui à la lutte contre l'épidémie des Mpox dans la province du Nord Kivu. Elle l'a fait savoir hier jeudi à Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire de province. Le docteur Boami Joyeux, qui conduit cette délégation, explique en quoi va consister cet appui. Il en parle dans cet extrait sélectionné par Chris Mukand.
Nous sommes en train de former quelques prestataires de première ligne avec focus sur la PCI, prévention et contrôle des infections, et la communication sur les risques et engagement communautaire. Ça, c'est une formation en cours. Et pour le prochain étape, nous sommes en train de préparer une analyse des besoins en ce qui concerne les diagnostics au laboratoire. Et nous avons discuté avec son Excellence sur le fait que nous voulons équiper les labos, former les laboratoires pour faire le plus de tests possibles et que l'on ait désormais les résultats des examens de laboratoire en temps, parce qu'on a vu que parfois les résultats viennent quand les malades sont déjà éparpillés et c'est un danger parce qu'on ne sait pas leur statut. Il faut avoir les statuts avant pour savoir qui sont malades et qui seront déchargés avant les temps.
Actualité internationale.
L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan a déclaré jeudi, quelques jours après sa première visite dans ces pays ravagés par la guerre, qu'il ne voyait pas suffisamment d'appétit politique de la part des parties belligérantes pour parvenir à une résolution du conflit. Le Soudan a plongé dans les conflits à la mi-avril 2023, lorsque des tensions qui couvaient depuis longtemps entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale Khartoum et se sont étendues à d'autres régions, notamment à l'ouest du Darfour. Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts, forcé des millions de personnes à quitter leur foyer et poussé une grande partie de la population à la famine.
l'invité.
Notre invité dans cette édition, c'est Jean-Claude Mambo Kawaya. Il est le président de la coordination territoriale de la société civile en territoire de Nyiragongo. Il nous parle de l'insécurité grandissante dans son entité. Une situation caractérisée d'une part par les accrochages autour des Kibumba et l'activisme croissant des rebelles du M23 et d'autre part par des clashs opposant les combattants Wazalendo entre eux. Jean-Claude Mambo Kawaya revient également sur quelques recommandations. Il s'entretient ici avec Bernardin Nyangi.
Monsieur Jean-Claude Mambo Kawaya, bonjour.
Bonjour.
Actuellement, il y a de plus en plus de cas d'insécurité dans le territoire de Nyiragongo. D'abord, dans la zone de Kibumba, qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier?
En fait, juste après la mise en place du mécanisme conjoint de vérification renforcée, en tout cas, nous avons été surpris par des attaques parce que la commission a été mise sur pied, c'était le 5 novembre 2024. Et le 6, c'était vraiment une attaque de l'armée rwandaise sur la colline Kanyabuki. Ils avaient réussi même à tuer un jeune garçon de 18 ans. Comme vous le savez, les déplacés ne sont pas loin tellement des positions des forces armées de la République. Et lorsqu'il faut qu'ils se procurent des bois de chauffage, ils entrent dans le parc. Maintenant, les attaques les avaient servis en pleine activité. Malheureusement, l'armée rwandaise avait tiré des balles contre ces jeunes. Et chose drôle, on avait pris son corps pour le jeter encore dans les feux du four de fabrication de charbon. Et ces jours-là, on avait y enregistré trois autres cas de blessures. Et ensuite, c'était le 17 novembre encore, où il y a eu encore une autre attaque dans la partie ouest de Kibumba. C'est juste à côté de la colline du volcan Nyiragongo. Hier, à 19h, il y a eu traversé des militaires rwandais sur la frontière de Kabuanga, jusqu'au niveau des trois antennes Kibumba pour pénétrer le parc. Et les pistes de passage, c'est-à-dire les barrières de Kasizi et consorts, sont présentement bloquées.
L'incident là du 6, le 6 novembre, certaines sources de M23 sur leur compte X avait plutôt dit que c'était les FRDC et le groupe Wazalendo qui s'étaient affrontés pour des barrières qu'ils contrôlent dans la zone-là.
Ça, c'est très faux. Vous savez, c'est ça leur manière de communiquer depuis longtemps. Pourquoi? Tout en sachant que la communauté internationale avait déjà, ou soit a déjà exigé les cessez-le-feu, il sait très bien qu'il risque d'être sanctionné. Ce sont eux qui avaient attaqué en premier lieu. Le poussée des forces armées, c'était même aux environs de 7h10.
Alors d'autre part, c'est chaque nuit, chaque à la tombée de la nuit, ou dans le territoire de Nyiragongo, effectivement, ça touche aussi une partie nord de la ville de Goma, où ça tire un peu de partout. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Vous savez que nous avons d'abord un problème sérieux de l'insuffisance de la police au niveau du territoire. Ce qui fait que le mouvement des criminels s'accentue dans presque tous les villages. Et là, c'est presque chaque nuit qu'on enregistre soit 4 maisons, soit 5 maisons cambriolées. Il y a des cas de tuerie et ces tueries n'épargnent pas même certains éléments de force et défense et de sécurité. Comme récemment, juste à la limite entre Turunga et Kiziba 1, on a blessé un militaire. Mais ce qui est très grave, c'est quoi? Il y a des échauffourées, soit des échanges de tirs qui s'observent maintenant entre certains groupes de VDP. C'est que nous nous condamnons fermement parce que les munitions qu'ils avaient reçues, c'est pour combattre l'ennemi. C'est pour permettre à libérer les espaces qui sont occupés par les M23 et non pour créer encore des incidents sécuritaires et pousser la population soit à abandonner même certains villages. Raison pour laquelle nous, en tant que civils, sommes en train d'appeler le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités parce qu'il est aussi inadmissible que certains d'eux puissent violer la note circulaire du gouverneur de province interdisant leur mouvement dans de grandes agglomérations.
Le dernier incident en date, c'est quel jour?
C'était hier et avant-hier.
C'était où?
C'était dans quel groupe? L'axe Kanyati, l'axe Mutao. Donc, si vous voyez vers Kanyangoma là-bas,
c'est groupement?
C'est dans le groupement Mouja et ça touche directement aussi le groupement Kibati. C'est anormal. La population est d'abord traumatisée. La zone héberge plusieurs camps de déplacés.
Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait effectivement pour résoudre aussi ce problème d'insécurité de part et d'autre?
Rapidement, il faut organiser vraiment une mutation de certains groupes vers d'autres zones. Deuxièmement, le gouvernement devrait aussi songer comment renforcer les effectifs policiers. Parce que s'il arrive vraiment à sonner seulement 18h, c'est chacun qui commence maintenant à se dire est-ce qu'on va se réveiller encore demain matin. Et troisièmement, le gouvernement devrait aussi avoir l'effectif total des VDP. Donc, contrôler réellement ces éléments et suivre le mouvement de tous les arbres.
De votre part, puisque depuis quelques mois, il y a par exemple le maire de la ville de Goma qui a lancé des opérations Safichamoudjou à Goma. Et cet appel revient toujours demander à la société civile, à la population de collaborer.
En tant qu'acteur qui œuvre dans la gouvernance sécuritaire, nous contribuons énormément à l'amélioration des conditions sécuritaires dans nos zones. Notre contribution, nous la faisons à travers des alertes. Malheureusement, certaines ne sont pas vraiment mises en œuvre. C'est ça aussi qui fait que l'insécurité ne se termine pas dans l'entité.
Jean-Claude Mombokawaya, merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Mimi Kindou, Alain Irong Mouchinge et Jacques-Yves Molima l'ont respectivement supervisé au coordonné. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.